Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait gazer? T'as été en manif?
Non, non, c'est juste que je changeais la litière de mon chat et j'ai pas fait gaffe. Il y a un petit morceau de litière qui m'est rentré dans l'œil. Du coup, je crois que j'ai une infection. Mesdames, messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, journée internationale de lutte des travailleuses et des travailleurs.
Et pour l'occasion, on a décidé de bousculer le programme des portraits.
Eh oui, fini le portrait des vieux croulants de la 5e République et de 2-3 femmes. Aujourd'hui, on va vous parler d'une lutte sociale.
Et pour une fois, on va pas se rendre dans la capitale, mais dans un endroit mystérieux que les Parisiens appellent les territoires.
La cancan, coyote, ce n'est pas pour ces François. Quand ils viennent avec leurs bottes, on leur dit n'est ni mafoué.
Encore aujourd'hui, à Besançon, il y a la forteresse Vauban et Micropolis, mais il y a aussi et surtout l'usine qui fabrique les montres LIP.
Si vous êtes un gauchiste ou tout simplement un vieux, vous avez déjà peut-être entendu ce nom.
Et pas seulement parce qu'il fabrique des montres. LIP, avant d'être un horloger, c'est avant tout le mouvement social le plus emblématique des années 70.
Avril 1973, l'entreprise LIP, qui fabrique principalement des montres, dépose le bilan. Le patron démissionne, abandonnant près de 1300 salariés à leur sort. Après plusieurs semaines de grève, les salariés apprennent qu'un plan social est imminent. Le document de la direction est intitulé cyniquement « 480 à dégager ».
Suite à cette annonce, les travailleuses et travailleurs de LIP vont décider d'occuper leur usine.
Pour maintenir leur salaire, les ouvrières et les ouvriers vont décider de faire quelque chose de très radical. Ils vont prendre le contrôle de leur outil de production. Et ça va durer.
Ça se résume à 3 ans de lutte pour garder les emplois de 1370 personnes qui étaient à l'intérieur de ces locaux.
Un des slogans de cette lutte, c'est celui qui, en couverture de ce livre, « On fabrique, on vend, on se paie ».
Et c'était ça le mouvement des LIP, des ouvrières et des ouvriers qui décident, sans patron, de reprendre la production et la vente du fruit de leur travail.
Bah, c'est les filles là, de la chaîne. On rappelle, ils étaient venus me voir en disant « Mais il paraît que tu te fais beaucoup de mourons. » Bah oui, bah, arrête de te faire du mouron. C'est notre boulot, ça. La chaîne, on la connaît. C'est notre travail. On sait, la qualité, on la connaît. C'est nous qui la faisons. De quoi t'as peur ?» Est-ce que vous avez le mécanicien ?»« Mais oui, il y a le mécano qui est là. Arrête, laisse-nous faire. » Et en fait, elles ont prouvé que c'était possible.
Lui, c'est Charles Piaget, une des figures de la lutte des LIP.
Bon, on vous a dit qu'on ferait pas de portrait de vieux aujourd'hui, mais lui, on a le droit. Il est cool.
Piaget, c'est un militant qui vient de la gauche chrétienne. C'est un honnête père de famille. Et en fait, il est devenu socialiste. Il n'est pas trotskiste, anarchiste. Il s'est pas rattaché à une école en particulier. Il vient au socialisme par l'expérience. Mmh. Il vient au socialisme parce qu'il refuse le colonialisme. Il vient au socialisme parce qu'il rejette l'arbitraire patronal et l'ordre capitaliste dans l'usine où il travaille, LIP. Voilà.
Piaget, s'il a pu venir au socialisme, c'est grâce à ses luttes chez LIP qui ont commencé en 68.
Oui, il y a déjà eu une grève à ce moment-là et en fait, ça leur a permis de s'organiser pendant les années qui ont précédé le conflit de 73.
Il faut dire nettement que s'il n'y avait pas eu mai 68, il n'y aurait pas eu LIP 73.
Parce qu'avant 68, chez LIP, tout était fait pour empêcher les travailleuses et travailleurs de s'organiser. 1000 salariés répartis dans des ateliers ou bureaux avec une interdiction de circuler, sauf pour travail précis. 1000 salariés dans les tensions provoquées par le travail. Tout cela ne prédispose pas à l'entente, à la solidarité, à des objectifs communs, à s'autogérer spontanément.
Piaget parle d'une culture militante qui s'est construite même avant 68, sur 15 années. Et pour construire cette culture-là, il a fallu distribuer des milliers de tracts, organiser des milliers de réunions.
En 73, les LIP ne sont donc pas des noobs du mouvement social, comme on dit en sociologie.
Ouais, 68 avait déjà permis aux syndicalistes de travailler ensemble et d'organiser des débrayages.
Ce 13 mai, on l'a préparé minutieusement entre CGT puis CFDT pour arriver à faire quelque chose de mieux possible dans l'usine. On a été contents. Le débrayage a vraiment été bien. Il y a eu beaucoup de monde.
68 leur a aussi permis de perfectionner leur mode d'action. Et on rigolait pas à l'époque. Hein. C'était plutôt radical.
Par exemple, au début de la grève en 73, les ouvriers ont carrément séquestré des membres du conseil d'administration de l'usine.
L'équipe de direction sera retenue pendant toute une nuit jusqu'à intervention de la police.
On n'a plus d'otages humains. C'est pas bon pour le rapport de force. Comment va-t-on faire pour défendre notre emploi et notre usine?
Et il y en a un, moi ça je ne me rappelle même plus lequel, qui a dit « Mais si on prenait des montres en otage, en cas qu'ils nous fassent le coup.
Oui, vous avez bien entendu, ils ont volé le stock de montres pour pouvoir le revendre. C'est donc une action illégale.
Bah oui, l'autogestion, ça se fait pas comme ça. Et ce vol de montres, ça permet aussi de payer les salaires.
C'est peut-être l'action la plus radicale et la plus révolutionnaire des LIP. Écoutez ce qu'en disait Jean Ragnès, un prêtre ouvrier qui était aussi une figure de la lutte, dans l'IB en 1973.
Le vol des montres, la remise en route des chaînes, les ventes sauvages clandestines, toutes ces actions sont une sorte de défi à la justice et à la morale, au code de la route capitaliste. Ça montre bien que la légalité est une notion très relative, tributaire du pouvoir. Personne ne peut dire, si on le prend entre quatre yeux, les gens de l'IP sont des voleurs. Et pourtant, les gens de l'IP ont fait le plus grand hold-up du siècle.
Et ce hold-up, il va super bien marcher.
Et en l'espace de quelques semaines, hein, ça doit faire 6 semaines, on avait fait un chiffre d'affaires qui était presque de la moitié de ce que faisait l'IP dans toute l'année. Bien sûr, c'était des circonstances spéciales, mais le directeur était complètement... complètement renversé, quoi, parce qu'il n'imaginait même pas.
J'ai retrouvé des traces de vente de montres à New York, une compagnie de théâtre anarchiste qui écrivait beaucoup au LIP et qui leur achetait régulièrement des stocks de montres pour les vendre aux États-Unis. Donc c'est allé très très loin. Par contre, c'était complètement hors des circuits commerciaux.
Et en même temps, les ouvriers essayent d'organiser le travail de la manière la plus démocratique possible, comme l'explique la chercheuse Camille Ternier dans Politis. La démocratie au sein de l'IP reposait sur 3 grandes instances. Le comité d'action, formé de non-syndiqués, il est en contre-pouvoir aux représentants syndicaux très présents dans la lutte, l'Assemblée générale et les commissions. Les assemblées générales sont quotidiennes, durent de 20 minutes à 2 heures, rassemblent de 80 à 1000 personnes. Parmi les 7 commissions initiales, une commission organise la production sur la base du volontariat.
Une autre caractéristique 68arde qu'on observe dans la lutte des LIP en 73, c'est l'importance de la question féministe. En tout cas, c'est ce qu'expliquait Charles Piaget dans une interview à un certain Denis Robert.
Denis Robert, du Média Blast ?
Mais oui, c'est exactement lui. Et en plus, le saviez-vous ? En vous abonnant à Blast, vous pouvez soutenir un média indépendant qui fait de l'excellent travail.
Incroyable !
Dans les ouvriers, c'est-à-dire dans le premier collège, la majorité était des femmes. Oh. Et ce qu'on appelle les OS, les ouvrières spécialisées, qui faisaient le même geste toute la journée. J'ai donné le chiffre là, de 6000 fois le même geste dans la journée. Parfois, d'ailleurs, c'était 6500 ou 5000, et voilà.
Cette forme de lutte très participative, avec des collèges et des assemblées générales, a permis aux femmes de s'organiser et de mener leur lutte spécifique.
Du coup, on se prend en main et on dit, on va poser le problème de la hiérarchie, on va poser le problème de la représentativité des femmes dans le syndicat. La suite du conflit LIP, on peut dire que la question des femmes après, elle a été la révolution dans la révolution.
Elle, c'est Fatima Demougeot, une autre grande figure de la lutte.
Ouais, elle a en commun avec Charles Piaget d'avoir une culture chrétienne de gauche. Hein. Elle a longtemps milité à la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne.
Pendant la mobilisation, elle sera à l'origine de la création de la Commission Femmes, une commission qui ira jusqu'au comité d'entreprise et qui sera pérennisée par la suite.
Cette organisation, elle a permis de faire émerger des questions spécifiques sur le rôle des femmes dans la lutte.
J'aimerais bien qu'on dise à chaque fois les travailleurs et les travailleuses. Parce que chez LIP, je crois qu'il y a à peu près 800 femmes, 400 hommes et 100 cadres. Je les compte à part. Hein. Bon, alors je crois qu'avec 800 femmes, si la lutte marche comme ça, c'est tout de même beaucoup aussi à cause des femmes. On a Piaget, bien sûr, qui est l'âme de la lutte, comme on se plaît à le nommer, effectivement, qui est un homme. Mais les femmes participent dans toutes les commissions, les femmes font un très gros travail.
Les femmes se sont aussi rendues compte que pour occuper l'usine, il fallait mettre de côté de sa vie de famille. La question est très concrète. Qui s'occupe des enfants pendant la lutte ?
Et puis pour des femmes qui étaient souvent isolées et mises en concurrence, la grève c'est aussi un moyen de créer des liens de solidarité sur le lieu de travail.
C'était avant tout les femmes qui avaient apprécié de faire tomber les barrières qui les séparaient des autres travailleurs. Elles avaient appris à se connaître en dehors d'un système fondé sur la concurrence pour se faire bien voir des surveillants. Il y a des convergences entre cette lutte ouvrière et cette lutte féministe, mais les LIP vont aussi créer des liens avec d'autres luttes qui ont lieu au même moment.
Il y a eu par exemple des rapprochements entre les ouvrières et les ouvriers de l'IP et les paysans et militants du Larzac qui manifestaient contre l'extension d'une base militaire. Certains se sont réclamés de l'autogestion en Yougoslavie et d'autres ont même comparé la lutte à la guerre du Vietnam, comme Ragnès dans l'IB.
Alors comment va-t-on de la société actuelle à la société que tu décris ?
En créant des Vietnams. Le Vietnam usine, le Vietnam église, le Vietnam justice, le Vietnam police, le Vietnam LIP. Bon, alors ça, c'est des trucs qui doivent vous paraître un peu bizarres aujourd'hui. C'est vrai que c'est très ancré dans les années 70.
Oui, ça doit être ça le problème, ouais.
Mais ça, c'était pour vous montrer qu'il y a une grande effervescence politique et militante autour de l'IP. On a beaucoup écrit sur cette lutte.
On a beaucoup filmé les LIP. Le réalisateur Chris Marker l'a fait.
Au commencement, Dieu créa Emmanuel, qui engendra Ernest, qui engendra Fred. Et là, tout se compliqua.
C'est marrant parce que je pensais pas qu'il allait faire un film. Je pensais que Chris Marker était plutôt du genre à prendre le crayon.
Stop.
Que la caméra.
Stop. Bref, un peu comme les Gilets jaunes, cette lutte, ça a été un vrai moment de politisation populaire. Les ouvriers ont pu s'intéresser à des thèmes nouveaux.
Et puis, non, on a découvert de nouveaux horizons. De toute façon, il y a des tas de choses à s'occuper. Moi, je pense par exemple aux immigrés, j'en avais conscience, mais je voyais qu'ils avaient des difficultés, mais je ne les comprenais pas.
Ce qui a aidé, c'est aussi que la lutte a été largement médiatisée et soutenue, notamment par le journal Libération, qui a été créé 2 mois avant le début de la grève.
Les nombreux articles consacrés au mouvement LIP et l'intérêt suscité attirèrent à leur tour des lecteurs, permettant au journal de parvenir à la viabilité financière à l'automne 1973. Donc sans LIP, vous n'auriez pas eu droit aux chroniques « La faute à l'Europe » de Jean Quatremer. Et ça, c'est... Hein ?
LIP a donc bénéficié du soutien d'une partie de la presse, de la sympathie de l'opinion internationale, au point où une manifestation en leur soutien a rassemblé 100 000 personnes à Besançon le 29 septembre 1973.
Il n'y a jamais 100 000 personnes à Besançon, normalement. Vous êtes déjà allé à Besançon ? Un samedi soir, en automne, c'est l'inverse de 100 000 personnes.
Alors cette mobilisation, elle est importante, d'autant plus qu'à l'époque, les politiciens ont encore peur, ils sont traumatisés de mai 68.
On n'a encore jamais fait marcher une entreprise si le personnel refuse de la faire marcher. J'espère que certains dirigeants syndicaux se convaincront de cette vérité très simple, faute de quoi il est évident que si le personnel de LIP se refusait à faire marcher LIP, un jour ou l'autre, LIP mourrait de sa belle mort, condamné à la fois par ses anciens dirigeants et par ses actuels ouvriers.
Vous l'avez reconnu ?
Ah oui, c'est Charles Hernu.
Non, c'est quelqu'un sur qui on a déjà fait un portrait. C'est le sympathique Pierre Messmer.
Et on voit que le discours, qui n'est pas du tout un discours de soutien au LIP, prend quand même en compte l'utilité des ouvriers, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui.
Ouais, parce qu'aujourd'hui, il faut juste remercier les patrons qui prennent des risques en créant des emplois, et puis il faut se dire que le travail, c'est pas une punition.
Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Je vous remercie.
Mais la magie de la lutte des LIP, elle ne va pas durer indéfiniment. Le 15 octobre 1973, Pierre Messmer déclare un peu hâtivement que LIP, c'est fini. Quelques mois plus tard, en janvier 1974, les accords de Dole sont signés et ils mettent fin à la grève. Un repreneur est trouvé en la personne de Claude Neugender, un publicitaire.
Lui, c'est un patron assez particulier parce qu'il est membre du PSU, le Parti Socialiste Unifié, qui partage des idées autogestionnaires. On vous en a déjà parlé dans l'épisode sur Nicole Nota.
Il va essayer de reprendre l'usine avec une gestion plus sociale, mais ça va pas très bien fonctionner. Il va se faire dégager par les actionnaires.
Un membre de son équipe d'alors pense qu'à LIP, Claude réalisait un rêve intellectuel, être admis par les syndicats tout en étant patron. Il pensait qu'il pouvait être en symbiose avec le monde ouvrier. Naturellement, il se leurrait. Cette recherche de symbiose a causé sa chute.
J'ai une culture politique suffisante pour savoir que la collaboration de classe, ça ne se fait pas. Et j'étais dans la classe patron d'entreprise. Et ils étaient dans la classe syndicaliste d'entreprise. Il n'y a pas de coopération entre nous.
Oui, ça reste un patron, Neugender. Il ne va pas non plus accéder à toutes les revendications ouvrières.
Oui, par exemple, quand Fatima de Mougeot lui demande l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il dit que ça va aggraver les coûts. L'affaire LIP va encore s'étirer sur plusieurs années, avec une nouvelle grève en 1976 après le départ de Neugender, grève qui va aboutir à la création de coopératives qui vont finir, elles aussi, par disparaître.
Ah là là, mais ces ouvriers, mais ils savent pas gérer une entreprise, alors qu'avec un patron, mais ça se passerait tellement bien.
Lorsque tu vas sur une ligne de production...
Mais si tout ça n'était qu'un vaste complot ? Non mais vraiment, un vrai complot ! Pour tuer LIP !
C'est en tout cas la thèse que défend Claude Neugender dans son livre « Pourquoi ont-ils tué LIP ?» Bon, le titre est assez parlant. Moi, je m'en vais. Je laisse Maudit résumer ce livre toute seule. Elle n'a pas été prévenue. En fait, je peux pas partir à cause du fil du micro.
Bon, c'est bon, on peut expliquer la thèse du bouquin ?
Oui.
Selon Neugender, la relance se passait bien. Il n'y avait aucune raison économique de licencier qui que ce soit. Pour lui, l'État et le patronat ont délibérément interrompu la relance en suivant un objectif politique clair. Tuer les mouvements ouvriers autogestionnaires. Bon, je vais le dire de façon plus argumentée. Suite à la mort de Georges Pompidou, le gaullisme social perd de son influence. Le temps n'est plus venu de soutenir les entreprises françaises, mais d'embrasser le néolibéralisme et les délocalisations.
Lorsque meurt le président de la République, la victoire de son rival, Valéry Giscard d'Estaing, dont l'étiquette d'indépendant est un postiche pour ses convictions profondément libérales, met inévitablement en porte-à-faux celui qui avait pu reprendre LIP grâce à Jean Charbonnel, figure du gaullisme social. Les libéraux, au sein de la droite du patronat du gouvernement, ont gagné. Ils ont eu ce qu'ils voulaient depuis 1973, la mort de LIP.
Quand au mois de septembre 1975, La crise du pétrole a amené François Sérac, président du patronat, et le premier ministre de l'époque, un certain Jacques Chirac, à considérer qu'il allait y avoir un impact sur les entreprises, des fermetures d'entreprises et autres. Ils se sont dit, si on ne fait rien, ces entreprises vont être autant de petits LIP. Ils ont donc fait le choix politique de casser LIP.
Et ils avaient des raisons de penser ça, hein, puisque inspirés par l'exemple de LIP, plusieurs entreprises tentent des expériences autogestionnaires à l'époque.
Depuis LIP, d'autres grèves autogestionnaires ont été possibles. Par exemple, en 1976, celle des salariés producteurs des briquets Dupont à Faverges. Donc à cette période, on a à la fois l'État français qui découvre le libéralisme économique, mais on a aussi le patronat qui change de stratégie face aux solidarités ouvrières.
Oui, parce que dans les années 60 et 70, c'était encore le plein emploi, et la situation était un peu plus favorable aux travailleurs qu'aujourd'hui. Et une expérience comme LIP, c'est fondamentalement une inversion du rapport de domination entre patron et salarié. Et ça, les dominants, ils aiment pas.
C'est en tout cas la thèse du politiste Guillaume Gourgues. Faire tomber le symbole LIP permet de discipliner les ouvriers.
LIP peut être considéré à la lumière de notre enquête comme un symbole de cette disciplinarisation. En cessant de soutenir la reprise de LIP, l'État et le patronat français signifient, plus largement, que l'action collective des travailleurs ne peut plus empêcher les licenciements.
Donc je résume, c'est pas du complotisme évidemment. C'est qu'on assiste à une reconfiguration du capitalisme au mi-temps des années 70.
L'État arrête de considérer la défense de l'industrie comme un objectif, le plein emploi est abandonné volontairement et le patronat reprend la main.
LIP est en fait à la fois l'exemple des méthodes militantes de cette époque et la victime de l'idéologie néolibérale qui est en train d'arriver. Et ce moment d'entre-deux, c'est ce que certains chercheurs appellent les années 68.
On considère que ça il y a deux dates de clôture, on va dire. Il y a, par exemple, l'historien Xavier Vignat, il dit qu'elle s'arrête en 1979 avec la destruction de la sidérurgie Lorraine. Et il dit c'est la fin, d'une certaine manière, d'un cycle de lutte ouvrière, d'insubordination très forte, qui comptait que sur elle-même et qui comptait d'abord sur elle-même. Et on passe à un processus d'étatisation des luttes ouvrières. Et du coup, certains et certaines historiennes et historiens, eux, clôt le cycle en 81 avec l'arrivée au pouvoir de la gauche gouvernementale et de François Mitterrand, hein, qui gagne l'élection présidentielle à ce moment-là.
On en parlait aussi d'ailleurs dans notre épisode sur le tournant de la rigueur avec François Mitterrand. Enfin, il n'y avait pas François Mitterrand dans l'épisode, mais c'est sur François Mitterrand, parce qu'il est mort.
Et tout comme le tournant de la rigueur, la conversion de Giscard et du patronat aux idées libérales, c'est pas naturel. C'est le fruit d'une lutte idéologique. Cette vision libérale vient affronter les idées marxistes et surtout gaullistes dominantes dans les années 60.
C'est un processus volontaire, pensé, théorisé, et c'est organisé par et avec l'État.
Oui, et c'est pareil aujourd'hui. On a tendance à penser que notre néolibéralisme, c'est l'État qui s'efface au profit du marché. Alors que pas du tout, au contraire!
Le néolibéralisme, c'est l'État qui organise sa propre impuissance et qui mime une prétendue incapacité à intervenir sur l'économie, alors qu'il est très actif.
On ne sait jamais laquelle des gouttes est la dernière. Ça, on ne sait pas. On peut le pressentir, mais on ne le sait pas. En revanche, on sait, on peut savoir si le vase est bientôt plein. Et en 2017, on fait les ordonnances travail. Moi, je me dis, quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail. 2 ans avant. Manifestation monstre, tension maximale. Et on fait les ordonnances travail et ça passe. On fait la réforme de la SNCF. On met fin au statut. Et on ouvre la concurrence. On s'attend à des blocages complets. Et on ne les a pas tant que ça. Il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur, sur le fondement d'une orientation sélective. Si vous avez suivi l'actualité politique des 20 ou 30 dernières années, vous savez que c'est une bombe. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe.
L'État néolibéral, il intervient. Simplement, il intervient en faveur du marché. Il intervient en faveur de la dérégulation. Et l'affaire LIP, c'est un peu le début de ce changement de paradigme.
Mais c'est pas que ça. Heureusement, c'est pas le néolibéralisme, il a gagné, circulé, il n'y a plus rien à voir. La lutte, elle est toujours en cours, là.
Elle est toujours en cours dans un contexte différent aujourd'hui. Les structures de solidarité entre travailleurs, les organisations syndicales et la classe ouvrière elle-même, tout cela est atomisé, affaibli, divisé.
Les choses ont changé. Prenez l'exemple de LIP. À l'époque, ils ont eu un énorme soutien médiatique. Et aujourd'hui, l'histoire de cette entreprise est totalement réécrite.
Et donc, Philippe, vous avez décidé de rapatrier la production ici à Besançon.
Alors, ben, comme vous pouvez le voir, ici, vous êtes dans un atelier d'horlogerie. La partie assemblage est la partie principale de notre activité ici à Besançon. C'est-à-dire que nous avons des composants. La montre est constituée de différents éléments fabriqués par des sous-traitants. Et nous assemblons ces produits ici, dans l'atelier à Besançon.
Dans cette émission, présentée par Stéphane Bern, on passe très vite sur l'histoire sociale de LIP, pour se concentrer sur la success story du brave patron qui relocalise pour faire du Made in France.
Alors que la lutte, bon, c'est vieux, et puis ça a fait divorcer Raymond.
Il y a donc eu une séparation qui s'est faite très rapidement avec mon épouse, et toute ma famille m'a rejeté.
Pourtant, des luttes d'autogestion, des ouvriers et ouvrières qui reprennent leur usine, ça existe toujours, et parfois ça marche.
Les Fralib, c'était il y a 13 ans, mais l'entreprise existe toujours. Aujourd'hui, vous le connaissez peut-être, c'est le T1336, hein, qui fait référence au nombre de jours de grève réalisés par les travailleuses et les travailleurs.
Il y a aussi d'autres exemples. Récemment, Mediapart consacrait un article à la librairie clermontoise Les Volcans, sauvée de la liquidation et reprise en coopérative par ses salariés.
Bon, tout ça, malheureusement, ne fait pas trop de bruit dans les médias. Et on a tendance à croire que les licenciements, les délocalisations, c'est quelque chose de naturel, de normal. Guillaume Gourg conclut.
Voilà ce que nous voudrions tirer de l'affaire Lip pour aujourd'hui. Les licenciements et le chômage de masse ne sont pas des fatalités économiques et ne l'ont jamais été. Leur acceptation est le fruit de décisions politiques qui peuvent être défaites et contestées. Les arènes permettant d'en dénoncer les ressorts politiques peuvent être réouvertes. Il est sûrement l'heure de se convaincre, de nouveau, de la nature politique des choix économiques.
Il y a forcément des différences entre maintenant et les années 70. Bon déjà, on peut plus rouler dans Paris, on peut plus fumer dans les hôpitaux, mais les modes d'action, eux aussi, ont changé.
Le vol de stock, les séquestrations, tout ça, ça se voit plus vraiment. Mais il y a aussi de nouvelles formes de radicalité. Si aujourd'hui on prête beaucoup plus attention aux luttes écologistes, aux luttes féministes, c'est aussi parce que des salariés comme ceux de Lip ont pu ouvrir la voie.
Oui, même si certaines histoires se terminent par des défaites, il y a toujours quelque chose à en tirer. Et c'est sur cette note un peu positive qu'on voulait terminer en ce jour de fête internationale des travailleurs et des travailleuses. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu et que votre 1er mai s'est aussi bien passé.
On revient le mois prochain avec un nouveau portrait. D'ici là, luttez bien !